Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour. J'ai aujourd'hui le plaisir et l'honneur de recevoir, en compagnie d'Éric, de recevoir Vladimir Fedorovski. Vladimir Fedorovski, bonjour.
Quel plaisir d'être avec vous de nouveau dans ce cadre qui est magnifique.
Et oui.
Qui est magnifique. Vous savez, Laurent Arthur, je vais vous dire, j'aime bien venir chez vous. Parce que nous avons de l'expérience. Et les gens qui ont de l'expérience, comme vous, moi,
et
comme nos amis,
recevoir.
Nos amis, attendez, je vais vous dire. Ils doivent faire comme nous. Ils doivent écrire des livres. Comme je vais vous raconter le livre explosif que je vais sortir. Vous avez la première avec ce livre, parce que ça va sortir dans 3 semaines. Personne n'en a parlé. Je vous donnerai la première. Écrire des livres ou faire des émissions. Il ne faut pas, à notre, si on permettait de dire la vérité, à notre âge avancé, il ne faut pas faire la politique.
Il ne faut pas faire la politique.
Il faut faire, mais même pour les jeunes, parce que vous savez, je vais vous dire, quand je regarde le monde d'aujourd'hui, j'hésite quelle image il faut choisir. Je vais vous dire... Est-ce qu'il faut faire l'image? Peut-être, je vais commencer par ce livre. Parce que, vous savez, dans ma vie, j'ai connu beaucoup de gens pendant cette période de changement. Vous vous souvenez, j'étais diplomate autrefois.
Très haut diplomate auprès de Gorbatchev, par Perestroïka.
À la fin du communisme, etc., oui. C'était notre œuvre. J'éprouve un sentiment d'une grande frustration, parce que, vous savez... nous avons fait, à notre époque, on a beaucoup de gens, je les ai connus, Reagan, les vôtres, les gens de là-bas, on est sortis de la guerre froide sans effusion du sang.
Oui, ce qui est un miracle. Hein.
Un miracle. Ça, c'est la phrase de Jean-Paul II. Jean-Paul II, il disait, c'est un miracle. Vous savez, 10 000 têtes nucléaires de l'autre côté. Tout ça, c'était l'accumulation.
C'est sans précédent dans l'histoire de l'humanité.
Sans précédent dans l'histoire. Et j'ai réfléchi et finalement, le livre que je vais sortir dans 3 semaines, c'est un livre absolument explosif avec quelqu'un qui était à l'origine de ça. Parce que les gens connaissent la face visible de l'histoire, et les gens ne connaissent pas la face cachée de l'histoire.
Qui est généralement la plus importante.
La plus importante. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui a marché sur ça, mais il l'a inventé. Et j'ai décidé de raconter la vraie histoire sur le magicien. Le sous-titre, c'est le magicien.
Le diable boiteux au Kremlin, le vrai magicien de Moscou, aux éditions Ballon, apparaître en mai.
Oui, début mai, c'est tout début mai.
Déjà sur la FNAC.
Complètement, ça c'est, les choses, c'est vraiment explosif, parce que vous savez, en soi, derrière ça, on a dit que les faces cachées, les faces visibles, on va en parler, parce que la crise actuelle, c'est aussi les faces cachées. Mais c'est quelqu'un qui ne cherchait rien. Qui voulait sortir de spirale de la guerre. Et finalement, il a réussi. Gorbatchev était en quelque sorte la face visible. Mais le vrai...
Le cerveau,
il s'appelait Yakovlev. Et ça, c'est un personnage, le vrai mage du Kremlin. Et je raconte étape par étape comment ça s'est passé... Vous savez, la chute du mur, la sortie du communisme, comment il a mijoté, puisque vous savez, il était manœuvrier aussi. S'il annonce la couleur, vous n'aurez pas à réussir. C'est un livre absolument exprès, le mage du Kremlin. Et pourquoi je sors ça? Parce que il est disparu il y a quand même, ça fait 15 ans presque.
Et vous étiez un de ses proches collaborateurs?
Moi, j'étais un ami, un grand ami. J'ai beaucoup fait avec lui, parce que vous savez, tout ce que j'ai fait dans la diplomatie, c'est finalement, c'est à travers lui. Vous savez, quand On a publié, vous vous souvenez, Solzhenitsyn, on a publié Docteur Zhivago à l'époque, toutes ces choses-là. J'ai fait un retour spectaculaire. Il y a deux ou trois choses que j'ai vraiment réussi spectaculaires à l'époque. C'est quand Sakharov est sorti, vous vous souvenez, il y avait un scientifique, oui. prix Nobel, il est sorti, après il est venu ici, après il y avait deux personnages que j'aime beaucoup, un est disparu, c'était Nouriev, qui était autrefois condamné par ces gens-là, etc. Il est rentré là-bas, il y avait le triomphe, il y a les choses comme ça, vous savez, c'est pittoresque ça. Et il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, que je vous recommande vraiment. Ça, c'est, il a joué un rôle. Et d'ailleurs, Yakovlev, il a joué un rôle dans son destin, parce qu'il était condamné là-bas à 15 ans de prison. Et il était effacé, ça. Il a fait une tournée. Peut-être vous vous souvenez, il a fait une émission spectaculaire avec Jacques Chancel, Le Grand Échiquier. Oui. Il s'appelle Mikhaïl Roudy.
Oui. Ah, oui.
Mikhaïl Roudy avec le truc. Tous les gens pleuraient, l'époque, ils voyaient ses savants, tout ça, c'est... Mais ça, c'est une grande époque. Et bref, dans ce livre, je raconte le personnage. Vous savez, c'est un livre un peu tordu, parce que le personnage est tellement au niveau, c'est un visionnaire.
Oui.
Mais au-delà de ça, c'est un prophète, parce qu'il a prédit ce qui se passe aujourd'hui.
Ah oui.
Il a prédit, ça, c'est un document que je publie, ça, c'est... Vous allez voir, c'est... Il a prédit que soit on gère la sortie de la guerre froide, on associe la Russie avec le monde
voilà.
occidental,
oui.
soit on va retourner vers quelque chose de beaucoup plus dangereux.
Voilà.
Parce que les morveux qui arrivent, il a prédit, il a utilisé le mot terrible pour les gens d'aujourd'hui, morveux qui arrivent. Et tout ça, c'était un document. Et pour déchiffrer la crise aujourd'hui, vous savez, il a connu, il était quand même, il a eu des conversations très profondes que je publie avec les Américains, avec Reagan. Il y a peut-être la conversation qui donne la compréhension de ce qui se passe. C'était la compréhension, vous vous souvenez, on peut oublier aujourd'hui, Brzezinski, le grand échiquier.
Oui.
Le grand échiquier. Et moi, j'étais présent, je bois le thé, c'était samovar, vous savez, c'était le vrai samovar à côté, avec des gâteaux au fromage, je me souviens. Et Brzezinski, il était emporté, et il a dit, vous savez, la Russie ne doit pas se relever, parce que s'il se relève, nous n'allons jamais accepter qu'elle se relève.
Et il a dit ça.
Et il a eu une conversation avec lui, il a dit, détrompez-vous, Yakovlev. Vous faites ça, inévitablement, il y aura un retour, je dirais, de l'âge, et inévitablement, il a prédit la guerre, il a prédit la tension aujourd'hui. Vous savez, dans le livre, quand j'écoute, c'est pour ça que je publie. Au-delà de ça, c'est un document quand même humain aussi, parce que vous savez, il faut comprendre que c'est quelqu'un, et nous étions, moi, l'exemple aussi, vous savez, nous étions quand même dans le système totalitaire. Et on est sorti de ce système-là en nous transformant. C'est une transformation intérieure.
C'est un exploit extraordinaire.
Extraordinaire. Et il faut dire aussi que c'est pourquoi je dis le magicien du Kremlin, parce qu'il a su manœuvrer ça de telle manière. Je raconte la chute du mur, si vous me posez la question, j'aurais pu vous raconter la chute du mur, mais on a tellement de sujets. Mais
on pourrait faire 6 heures.
6 heures, parce que la face cachée, la chute du mur, oui. Quand je dis, vous savez, détrompez-vous, la chute du mur, ça s'est passé d'une manière... Voilà, l'exemple, parmi les exemples, il y en a plein de révélations, mais je vous donne...
Expliquez-nous.
Le truc, mais... Étape par étape, prédiction, tout ça, visionnaire par rapport à la crise d'aujourd'hui, mais juste la chute du mur. Vous pensez que ça s'est passé en novembre? Pas du tout. Ça s'est passé encore en juin. Et là, j'étais témoin oculaire. Il y avait, vous avez le cadre ici quand même, magnifique, et c'était au Kremlin, c'est un tout petit peu comme ça, avec les choses, vous savez, parce qu'ils aiment bien, vous aimez les boiseries modernes. Oui. Là, c'était les boiseries anciennes. Il y a une pièce très secrète au Kremlin là, on ne peut pas écouter. On nous écoute à la radio.
Elle est insonorisée. Oui.
Insonorisée, c'est-à-dire les trucs protection des services, etc. Il y avait, c'était le 6 juin 89 encore, l'année fatidique, 80, loin ça, c'est quand on est sorti notre exploit. Et vous imaginez, ils ont été quatre. Il y avait Jacob, mon diable boiteux, parce qu'il était blessé à la guerre, il boitait.
Oui, c'est pour ça que vous le qualifiez de boiteux,
Il était son prénom au Kremlin, diable boiteux, parce qu'il était manœuvrier, plus il boitait, et puis plus
Eh bien, ça rappelle génial Talleyrand était surnommé le diable boiteux aussi.
C'est un clin d'œil, oui, bien sûr. Et il y avait Shevardnadze, un de mes copains aussi, géorgien. Il y avait le KGB, l'armée et Gorbatchev au milieu, comme ça. Et à l'époque, j'étais un tout petit peu mêlé à ça, parce que, vous savez, les gens pressentaient que la chute du mur va se passer, qu'il y avait l'horrification, et Mitterrand m'a convoqué, et il a dit « je voudrais transmettre quelque chose de confidentiel pour Gorbatchev ». Je connais. C'était ton message. Ne faites pas ça. Ne faites pas la réunification d'Allemagne.
Ah oui, oui.
Vous comprenez? Il était, parce que l'Allemagne trop grande pour la France, etc.
Ça l'obsédait, Mitterrand.
Ça l'obsédait. Oui. Et je transmets ça, je ne savais pas que de l'autre côté, Thatcher, vous savez Thatcher, elle a fait le même message à Gorbatchev.
Oui, elle aussi était obsédée.
Calmez-vous. Message. Plus il y avait, on dit, on racontera les faces cachées d'aujourd'hui, parce que les services secrets sont très mêlés aujourd'hui, à l'époque, il y avait le KGB, il a fait une analyse de la situation, il a fait un papier, ça existe dans les archives, etc. Je ne sais pas s'il déclassifie maintenant, il déclassifie, après il reclassifie maintenant, je ne connais plus, mais en tout cas, je l'ai vu. Il disait que si ça continue comme ça, ce sera la réunification est inévitable. Il y aura la chute de, disons, de l'influence française, parce que l'Allemagne deviendra plus importante, l'Europe, pour l'Angleterre, tout l'est expliqué inévitablement.
C'est exactement ce qui se produit.
Et vous imaginez bien, 89, juin 89, oui. Ils disent que voilà. Si ça continue comme ça, au bout de compte, c'est la fin de l'Union soviétique. 89. Mm-hmm. Et c'est ton papier qui discutait. Vous savez, mon ami diable boiteux Yakovlev, alias Yakovlev, il était quand même manœuvrier. Ils ont discuté 6 heures. Les avis différents, le KGB, l'armée, les réformateurs... Gorbatchev garde le silence. C'est lui qui est l'arbitre, c'est quand même lui qui a décidé. Et vous savez, dans cette affaire aussi, il y a des choses pittoresques. Sa femme a joué un rôle. Sa femme, elle était une maîtresse-femme, comme on dit.
Et très intelligente.
Mmh. Très intelligente. Elle détestait que Gorbatchev soit en retard pour les dîners. Il dit, vous savez, demain on va se décider, c'est trop tard, je vais y aller. Et Yakovlev, j'étais à ce moment-là avec lui, il me dit, c'est foutu. Si ça continue comme ça, il n'y aura pas ni réification, il faudra... Parce que le KGB, il a dit, il faut réutiliser la force, ils ont 500 000 hommes là-bas, en Allemagne.
Oui.
Il y avait 500 000
militaires russes. C'est-à-dire, on peut arrêter ça. Les Allemands demandent, Mitterrand demande, Thatcher demande, arrêtez. Mais lui, il me dit à l'époque, mon diable boiteux, alias Yakovlev, que si on fait ça, c'est foutu pour notre projet. Et le projet était la paix, l'équilibre des intérêts. Je vais dire quelques mots à propos de ça, parce qu'on est dans tout le contraire, il était rêveur quand même. Ils pensaient que l'Occident va comprendre. Et il dit, je vais jouer le Vatou. Il prend le téléphone de couleur ivoire avec le sigle du Kremlin. Vous savez, le sigle du Kremlin sur le truc. Sur le téléphone, hyper secret. Et tant que Gorbatchev, il était dans sa voiture noire, zile, avec les vitres teintées, il téléphone à Raïssa, à la femme de Gorbatchev.
Ah oui, ah oui, ah oui.
Et il lui dit, et là j'étais présent, c'est quand même, c'est la grande histoire.
Ah oui.
C'est comme
oui.
ça que ça s'est passé.
Oui.
Il dit, vous savez, on peut faire comme KGB. Mais dans ce cas-là, nous sommes otages du KGB et de l'armée. Dans les meilleurs, sa phrase exacte, je l'ai notée à l'époque, je publie ça aujourd'hui. Ça, si on fait ça, on est l'otage du KGB et de l'armée. Dans les meilleurs de cas, nous serons évincés du pouvoir, mais plus vraisemblablement, nous serons tués.
Tués.
Il y avait un silence au bout du fil. Les heures étoilées de l'histoire, comme aujourd'hui, notre ami Trump, il va parler, c'est les heures aujourd'hui, les heures étoilées de l'histoire. C'est comme ça que ça se passe, parce que ça peut, on est la veille de la guerre mondiale, peut-être. Il téléphone. Et il y avait le silence en disait longue. Et vous savez ce qu'elle disait, Raïssa, la femme de Gorbatchev ? On verra. À ce moment-là, Gorbatchev vient. Vous savez, les pelmenis, les ravioles, la russe, Vatrouchka, le dessert au fromage qu'il adorait. Et au dessert, il l'a briefé, il l'a répété. Le lendemain, Gorbatchev, il est revenu. Il a dit, il n'y a pas d'intervention. C'est la réunification. C'était le 6 juin, bien avant. Je vous donne, ça c'est vraiment,
oh,
mais c'est dans le livre, il y a plein de choses. Excusez-moi, j'ai fait un hommage à ce, je le compare, vous savez, ce diable boiteux, Yakovlev, vous savez, au vieux sage de Dostoïevski.
Oui.
C'est quelqu'un qui vous guide vers la lumière.
Oui.
C'est le personnage le plus détesté par les communistes, par tous ces gens-là, le plus détesté dans le monde. Parce qu'ils disent que Eltsine, Gorbatchev, tout ça, c'est la façade. Le vrai, c'est lui, c'est l'hommage à l'histoire, mais surtout, comme il a prédit ce qui se passe en Orient aujourd'hui. Il a prédit la crise ukrainienne il y a 15 ans. Vous comprenez les choses comme ça. Et il a dit, je me souviens, il y avait un dîner, je ne sais pas si je vous ai dit, nous étions trois. Il y a un autre vieux sage, parce que chez les Américains aussi, il y a les vieux sages. Ce n'est pas seulement les vieux, on peut médiatiser, mais il y avait le patriarche de la diplomatie américaine, George Kennan.
Ah oui, oui.
George Kennan, inventeur de ce que vous connaissez par cœur, vous comprenez, c'est l'endiguement. Containment, la théorie d'un long télégramme que vous connaissez, etc.
Le containment en anglais.
Absolument, c'est lui. Excusez-moi pour la radio, je paye l'amende. L'endiguement. Et lui, il disait, si on a décidé de ne pas associer la Russie avec nous, c'est la plus grande erreur que l'Occident a commise depuis Jésus-Christ. Vous savez, comme je me souviens, ça c'est vraiment les choses comme ça. Excusez-moi, je fais la dérive, mais tout d'abord le personnage, et puis pour moi, c'est ma vie, c'est mon désastre aussi par rapport à ce que je vis aujourd'hui. Oui. Parce que je considère, vous vous souvenez, je vous ai dit qu'on vit le moment le plus dangereux de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui,
on est au seuil d'une troisième guerre mondiale.
Au seuil de la troisième. Je pèse mes mots. Vous savez, on était plusieurs fois au seuil de la. Je raconte d'ailleurs dans le livre, il y a la crise de Cuba. C'est pittoresque, je ne vais pas vous raconter, puisque la crise de Cuba, je peux vous faire l'émission. La crise de Cuba, vous savez, on a gardé les contacts. Aujourd'hui, les contacts sont rompus. Les contacts sont inventés. Vous savez, négociation à propos de... Il n'y a pas de négociation avec l'Iran. Il n'y a pas de négociation. C'est inventé. C'est comme les contes Andersen. Ouais. Vous savez, le roi est nu, quand on raconte. Mais je vais vous raconter comment ça s'est passé réellement. Mais à l'époque, À l'époque, il y avait, pendant la crise de Cuba, pourquoi on a évité ? Parce qu'il y avait les analystes très pointus. Les gens ont évité la guerre mondiale. Parce que les gens ont eu peur de la guerre. Aujourd'hui, ils n'ont pas peur de la guerre. Ils ne connaissent pas, ils connaissent ça dans l'ordinateur.
Ils connaissent ça qui est dangereux.
Ils le connaissent, parce que vous savez, en famille de Trump, il n'y a personne qui a participé. Kennedy, ils étaient un héros de la guerre. Et Brezhnev, tout ça, c'est les gens qui ont pas... Mais bref. Mais il y avait négociation, c'était pittoresque, il y avait, les gens ne savent pas, il y avait un playboy qui était un espion russe, qui était en contact permanent avec Kennedy. Et il sortait avec les actrices d'Hollywood et il racontait tout. Ça, c'est pittoresque, je n'ai pas le temps de raconter. Et deuxième fois, quand on a fait ça, c'est comme aujourd'hui à peu près. Vous savez, quand on a, il y avait la période d'Andropov et Reagan, quand les Russes, ils ont cru qu'il y avait, c'est 83 aussi, il y avait la vie. Mais dans les deux cas, les contacts, etc., et puis les peurs de la guerre. Je termine avec le diable boiteux du Kremlin, et puis on parlera des choses qui vous intéressent.
Mais c'est très actuel, parce que justement, le diable boiteux du Kremlin, en fait, on peut dire qu'il a différé ce que nous vivons aujourd'hui et qu'on aurait pu vivre à l'époque. En fait.
Vous savez, je vais vous dire, ça c'était plus ambitieux dans sa tête. Parce que, et ça c'est une chose que je regrette beaucoup, parce que quand j'ai participé à ça, quand on a eu ce projet, il y avait projet international, qui était un projet basé sur l'équilibre des intérêts. Sur la nécessité de prendre les intérêts, pas rouler, pas inventer, pas imposer ça, mais trouver l'équilibre des intérêts pour éviter, parce que l'alternative à ça, je dis texto, il dit texto, mon diable, que l'alternative de ça, c'est l'apocalypse. Et on est la veille de l'apocalypse.
Et en fait, on est
avec 6 000 têtes nucléaires chez les Russes, c'est à peu près la même chose, un peu moins chez les Américains, tout ça, c'est les choses comme ça. Avec ce qui l'a effrayé et ce qui triomphe aujourd'hui, il y avait les approximations de l'analyse. Je vous ai parlé des trucs inventés, mais regardez jusqu'à quel point, sur l'Orient, que je connais tellement, sur les choses comme ça, je suis effrayé par l'approximation de l'analyse. Vous savez, on se connaît depuis longtemps, vous êtes très pointu. Vous hésitez de dire, pour porter le jugement, d'en mettre dans votre émission, le jugement définitif. Vous savez, il faut comparer ça. Et là, il y a le désir de prendre, le souhait de prendre ses désirs pour la réalité. Vous comprenez, on m'a raconté, maintenant c'est publié dans la presse, il y a eu un article explosif hier. Il y avait un journal pro-ukrainien, soi-disant, qui a publié ça. Daily Telegraph, Wall Street Journal publié ça. Mais la presse israélienne parle. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui en Orient, c'est lié avec ce que prédit mon diable. Approximation de l'analyse.
Au Moyen-Orient.
Oui. Au Moyen-Orient. Au moyen, je parle de la crise iranienne, concrètement. Mais vous savez, j'aurais pu vous parler de la crise ukrainienne,
oui.
avec mes origines, s'il vous plaît. Parce que vous comprenez, on a dit, vous savez, quand je viens chez mes copains, dans les mainstream, je vous signale, je dis faites attention, parce que tout est sur l'Internet. Vous racontez les choses, tout reste sur l'Internet. Et tôt ou tard, les gens vont vous présenter les choses comme ça.
Eh oui.
La Russie va s'écrouler dans 2 semaines. Eh oui. Vous vous souvenez la phrase le truc n'importe. Mais je reviens aux choses d'aujourd'hui. Vous savez, la base, ce qui se passe, pourquoi moi, je suis perturbé par ce qui se passe. Vous êtes perturbé.
Oui, oui.
Parce que vous comprenez, on ne maîtrise pas. Aujourd'hui, il y a plusieurs solutions, etc. Mais tout ça s'est basé, il ne faut pas se tromper, maintenant, d'ailleurs, il ne faut pas se tromper. Il y a deux choses qu'il faut prendre en compte. Tout d'abord, ça se circule. Rien n'est caché. La première chose, nous avons un agent secret infiltré à la Maison Blanche, chez les Iraniens, même c'est la télévision. La télévision, regardez les visages.
Oui.
Regardez jusqu'à quel point les visages changent. Et je regardais les visages quand ils ont dit, quand ils ont tué les Ayatollah, Khamenei, et puis quand même toute la direction de l'armée était tuée, etc., qu'il y aura la révolte. Et c'est une... Encore une fois, l'autre, il disait 2 semaines, il disait, tout est resté sur l'Internet, 2 jours. Et c'est foutu pour les Israéliens. Ils appellent ça, encore une fois, le changement de régime. Je ne vais pas utiliser le mot anglais. Premier changement de régime. 2 semaines. Maintenant, c'est, je regardais aujourd'hui la presse. Ils disent ils ont été piégés.
Les Américains et les
Israéliens. Les Américains. Et paradoxalement, même Netanyahou qui était porté sur ça.
Oui, était humainement. Prévu,
mais ils ont, vous savez, il y a quelqu'un qui va quand même avoir des problèmes plus tard, parce que aujourd'hui, la presse israélienne parle ouvertement de ça. C'est le chef de Mossad, le directeur de Mossad.
Qui a mal renseigné.
Qui a mal analysé. Les choses mal analysées. Il y avait, comment il s'appelle, David Bornea. Il y avait son prédécesseur qui a dit, faites attention, c'est un grand pays, faites, Mossad, son prédécesseur, faites attention, 93 millions d'habitants, 6 000 ans de l'histoire, en tout cas, l'histoire d'une civilisation, tout le monde est venu, les Grecs, tout le monde est venu, même Tartare est venu là-bas, ils n'ont pas réussi, parce que c'est montagneux, c'est une... C'est les guerriers aussi. Il faut comprendre ça. Et puis, ça, c'est une discussion très intéressante pour moi, parce que quand j'étais aux affaires, je disais toujours qu'il faut contredire parfois les chefs. Et je me souviens, d'ailleurs, on a parlé de l'unification d'Allemagne, quand ils ont décidé de ne pas conclure le traité autour de ça, je me souviens, j'ai fait un télégramme, vous savez, les diplomates, ils font des télégrammes. Je fais un télégramme assez explosif. Je pensais que je serais puni parce que j'ai dit, vous faites ça, vous serez roulé. Et ça, c'est comme ça s'est passé, etc. Et le problème, là, de l'analyse, qu'ils ont allé dans le sens désiré par Netanyahou.
C'est le problème
et de la carte. Désiré par Netanyahou, mais son rôle, ce n'était pas du tout de plaire au chef. Son rôle, c'était d'analyser les situations telles qu'elles s'est passées. Et quand ils ont dit deux jours. Mais vous savez, je compare évidemment la crise ukrainienne avec l'Orient. Quand il y avait au début, d'ailleurs, Poutine, il y avait quelqu'un qui l'a piégé historiquement. C'était un personnage inventé, un peu farfelu. Un de ses collaborateurs secondaires qui était beaucoup médiatisé parce qu'on dit que c'est le mage du Kremlin. Mais en réalité, c'est un sous-fifre qui est quelqu'un, mais qui a quand même gaspillé 15 milliards donnés aux Ukrainiens. Mais bref, les choses, Poutine, il était piégé par ça. Mais l'Occident, il a dit la Russie va s'écrouler dans 2 jours, il y aura la crise, il y aura une révolte, il y aura la plus grande erreur qu'ils ont fait historique, c'est de pousser la Russie dans les bras de la Chine, ce qui nous coûte si cher maintenant. Parce que vous comprenez, ça c'est parce que ce qui se passe en Orient. Mais bref, mais surtout, vous savez, avec ces gens-là, il faut comprendre que même avec les Russes, je dis que la meilleure chose, c'est de connaître l'histoire longue, disait Brodel. Prendre en compte la mentalité du pays, comment les pays réagissent. Parce que quand ils ont fait tout ça, paradoxalement, vous savez, la phrase sur deux semaines et la Russie s'écroule, j'ai dit que c'est la phrase qui avantage beaucoup Poutine. Et les Russes, ils ont beaucoup transmis. Et ça a avantagé, vous savez, les réactions de la population.
Le réflexe patriotique.
Et ça s'est passé. L'autre Israélien, le prédécesseur de ce David Barnea, il disait, faites attention, on va taper, ça, c'est les choses comme ça, il y aura un réflexe patriotique.
Voilà.
Même les gens qui n'aiment pas les ayatollahs, évidemment, et maintenant c'est reconnu que c'est un grand problème pour nous, parce que, vous savez, encore une fois, maintenant, la presse, même la presse, je reproche un peu aux copains d'ici, parce qu'ici, ils évitent de publier les choses trop perturbantes. Les Américains, ils publient.
Oui.
Même les Anglais. Hier, il y avait un truc qui était, dès le Télégraphe, j'ai lu, complètement dingue, sur le fait qu'il n'y a plus d'armes. Vous avez vu ça? C'est-à-dire, les Américains ont gaspillé tellement d'armes.
Oui.
Patriot, Adams, le Tomahawk. Vous savez,
ils déposent tous leurs stocks, même ceux du Pacifique.
Ils donnent des dates, date par jour par jour. J'étais absolument, je connaissais ça, mais j'ai dit publier dans le journal le plus, vous savez, publier date par date. Vous comprenez, ça c'est les choses comme ça. C'est-à-dire, Trump, il est dans la situation très très difficile maintenant.
Il est dans un piège.
Dans un piège. On dit qu'il n'y a pas, vous savez, les joueurs d'échecs, il y a le terme.
Il est échec et mat.
Voilà, quand il y avait, il n'y a pas de bon.
Il est échec et mat, il n'y a pas de solution.
Zweig, quelque chose comme ça, quand les gens n'ont pas de bons. Parce que vous savez, le problème, ce qu'il va nous annoncer aujourd'hui, après, vous comprenez.
Mais on voit bien qu'il est égaré complètement.
Non, mais tous les jours, il dit qu'il a déjà gagné. Okay. Oui, vous savez, je vais vous dire. Moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Il faut, dans la diplomatie, il faut que tout le monde ne passe pas le match de boxe. Ça ne me gêne pas à outre mesure, mais le problème là-dedans, c'est que, vous comprenez, la guerre d'enlisement, et c'est surtout que quand on réfléchit, soyons très clairs, vous savez, les gens sensés, les économistes chevronnés, ils disent on peut tenir 3 mois, mais on ne peut pas tenir 6 mois. 6 mois, on ne peut pas tenir. Et ça, c'est un... Vous savez, ça peut être la crise mondiale sans précédent.
Ben oui.
Avec l'inflation, mais surtout avec récession, avec les choses comme ça. Et pourquoi je dis, vous comprenez, il y a une chose sur laquelle, encore une fois, des souvenirs. Vous savez, quand on prend ce désir, surtout quand on utilise ça, on mélange la diplomatie et la propagande. Quand la diplomatie devient, vous comprenez, médiatique. Ça, c'est
le contraire de la diplomatie.
C'est le contraire de la diplomatie. Et vous savez, ce qui m'a étonné hier dans Wall Street Journal, Lewis, il y a quelqu'un qui est très calé, mais je ne m'attendais pas qu'il était... Il disait, Trump, il se trompe. Parce que quand il raconte les histoires des contacts inventés avec les Israéliens, il y a un problème, non seulement le mot « durer », si ça dure, c'est dangereux, mais c'est très dangereux, la crédibilité.
Les contacts avec les Iraniens.
Les contacts avec les Iraniens.
Oui.
Les contacts
qui n'existent pas.
Ce qui n'existe pas. Au fait, vous savez, je vais vous dire, la réalité, c'est très simple. Ce qui existe, en revanche, c'est qu'il y a les intermédiaires. Il y a les intermédiaires qui existent.
Oui, il y a les Pakistanais.
Il y a les Pakistanais qui peuvent transmettre les messages, qui ont des bons rapports avec les Iraniens, qui ont des bons rapports avec les Chinois, avec les Américains.
Oui.
Ça, c'est un avantage. Et ça, c'est même, mais les Turcs, ils sont moins impliqués, mais cette fois-ci, mais quand ils disent que les négociations sont très avancées, il faut faire, ils publient, c'est pas, c'est, en tout cas, ce journaliste, cet observateur éditorialiste chevronné, plutôt gentil avec Trump, il dit inventer ce genre de choses. Inventer, c'est comme les contes Andersen. Vous savez, le roi est nu, oui. On invente les choses, tout le monde dit. C'est très dangereux.
Mais il essaye de gagner du temps, Trump.
Oui. Ils essayent de gagner du temps, d'une part. D'autre part, quand même, vous comprenez, il y a... et ça, c'est un danger, parce que ça, c'est un problème de l'analyste très pointu. Parce qu'il veut prendre quelques, vous savez, le terminal pétrolier. Là,
et à votre avis, qu'est-ce qu'il va faire là?
Vous savez, ce qu'ils disent, que les Américains, ils le disent publiquement, ils le disent, qu'il y a plusieurs options. Il y a l'option de prendre les îles et essayer de contrôler...
Près du Détroit.
Près du Détroit, mais les experts militaires de tous les bords. Moi, j'ai lu l'article complètement explosif qui a descendu ce plan-là. Vous imaginez pour qui? Par l'ambassadeur ukrainien à Londres, qui est un grand chef de guerre, qui était Zaloujny, il s'appelle.
Zaloujny.
Zaloujny. Il dit, c'est impossible. C'est impossible, etc. Les gens se rappellent bien fou, etc. Impossible de tenir les Iraniens. Le problème là-dedans, c'est que si on s'enlise, c'est une chose... vous savez, le danger là-dedans, que tout d'abord, il y a le danger qui concerne le nucléaire, je tiens à vous dire. Vous avez remarqué que la semaine dernière, il y avait l'attaque, il y avait les Russes qui construisent là-bas...
la centrale de Boucher.
Boucher, exactement. Centrale de Boucher. Les Russes ont été effrayé par ça, parce que vous comprenez. Deuxième chose...
C'est-à-dire que si elle reçoit des bombes, la centrale de Boucher, ça va créer une pollution radioactive.
Vous savez, mon souci, c'est mon souci que, compte tenu... Vous savez, c'est très dangereux la situation quand les gens sont dos au mur.
Mmh. Oui, c'est ça.
Et aujourd'hui, ils sont tous dos au mur, parce que, vous savez, Trump, évidemment, on dit que Trump, c'est dingo. C'est non. Trump, il est conscient que... Vous savez, tous les sondages le disent, vous savez, la guerre là-bas est soutenue. Il a 36% de, disons, des avis favorables, mais la guerre n'est pas soutenue, c'est encore moins, beaucoup moins. Mm-hmm. Vous comprenez, les démocrates, ils commencent à gueuler, ils veulent piéger l'impeachment. Perspective. Trump,
s'il perd les midterms, il va avoir un impeachment. Hein.
Mais vous savez, les démocrates, non seulement démocrate, mais regardez ce qu'ils lui disent. Il dit qu'il veut l'impeachment. C'est-à-dire, Trump, moi, je pense qu'il faut... Vous savez, les gens, quand même, pensent que c'est juste côté médiatique, mais Trump, il dit des choses parfois...
Parfois, c'est vrai.
Aussi, peut-être pas négociation, mais en revanche, sur les mid-terms, évidemment, il est conscient. Dos au mur sur ce plan-là.
C'est-à-dire, on sent qu'il est paumé, on sent.
Mais vous comprenez, quand il a dit qu'on lui a proposé le dernier truc, ça m'a bluffé. Quand il a dit qu'on lui a proposé d'être ayatollah en Iran.
C'est n'importe quoi. Ouais.
Non, vous savez, je vais vous dire, maintenant il est là, mais le problème là-dedans, que simplement le moment est très très délicat.
Oui, parce que en plus même Israël. Et presque dans les cordes aussi, parce qu'il faut voir que les missiles iraniens à tête multiple qui actuellement terrorisent la population israélienne, qui a beaucoup moins de résilience que la population iranienne, beaucoup moins.
Évidemment, vous avez raison, parler de la résilience. Les Iraniens, avec ces 6000 ans de l'histoire, mais surtout qu'ils ont l'habitude d'être en guerre.
Oui.
D'être en guerre, et le réflexe, ils ont l'habitude avec la guerre de l'Irak,
oui.
Tout ça, ils ont l'habitude de faire ça, et ce qui est, on m'a dit que c'est vraiment, ils se sont trompés, les services israéliens, en disant que c'est les...
Oui, parce que les Américains se trompent, on sait qu'ils sont incultes, et sommaire dans l'ensemble, à part quelques exceptions.
Pour moi, c'est inacceptable.
Les
inacceptable.
Israéliens sont généralement beaucoup
évidemment,
plus
femmes. Évidemment, les Israéliens, et ça c'est un truc hyper inquiétant.
Et eux aussi se sont trompés en fait.
Ils sont trompés. En tout cas, j'ai lu la presse israélienne aujourd'hui, ça sort directement, ça sort. Vous comprenez? Et surtout cet article dont je vous ai parlé, ça, c'est les choses comme ça. C'est-à-dire les choses, c'est une nouvelle donne qui peut provoquer, je vous dis, la crise sans précédent. Quand ils sont dos au mur, n'oubliez pas le facteur nucléaire. Parce que les facteurs nucléaires, personne n'en parle directement, mais tout le monde en a dans la tête.
Je vais vous donner une information qui va dans votre sens. Samantha de Banderne sur LCI, pourtant LCI c'est une chaîne très conventionnelle,
absolument,
comme vous le savez, a dit hier que dans ses contacts à Londres, parce que bon, elle a été officielle de l'OTAN, mais elle est liée à Chatham House et au service secret anglais, et c'est une femme d'ailleurs, c'est marrant, qui a une certaine naïveté, une certaine bonne foi en fait, et qui découvre parfois des réalités. Bon. Mais elle a dit hier qu'il commence à y avoir une rumeur à Londres dans les milieux dirigeants que peut-être il faudrait utiliser une bombe atomique contre l'Iran à un moment donné.
C'est ça que je vous dis. Elle a dit publiquement ce qui est dit dans le milieu diplomatique maintenant en sourdine.
Voilà.
Et je vous signale, dans ce cas-là, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Je vais vous dire pourquoi ça. Parce que les Russes, ça les effraie, c'est à côté de chez eux et tout ça. C'est la fin de la structure. La structure, détrompez-vous. C'est la fin de Proche-Orient tel qu'il existait. Ce n'est pas du tout le grand Israël qui sera construit. Ce sera le grand trou.
Très bonne formule.
Malheureusement.
Ça, c'est une très
vous
bonne
comprenez,
formule.
Parce qu'ils disent qu'il faut garder. Mais ça, c'est d'une part. Et d'autre part, il y a un facteur qui est sous-estimé. Tout d'abord, il faut creuser du côté de la bombe sale. Parce que la bombe sale, c'est très dangereux aussi. S'il y a de l'autre côté. Et deuxième point sur
lequel... Il faut expliquer aux auditeurs ce que c'est la bombe sale. C'est quand on fait exploser une poudre atomique et qu'elle répand de la radioactivité.
Exactement, c'est-à-dire c'est le recours, c'est quand les gens ne maîtrisent pas la technologie, ils peuvent avant l'heure faire la bombe. Ça c'est la première chose.
Et il y en a une qui peut être envoyée sur Israël,
évidemment,
par exemple.
Évidemment, ça c'est les choses comme ça, mais vous comprenez, même ce qu'ils disent, moi, ça, vous savez, les gens du Golfe sont effrayés. C'est pour ça qu'il y a cette pression en faveur de ça, et c'est mon souhait aussi.
De modération.
De modération, parce que vous comprenez, on vit, je vous dis, je pèse mes mots, on vit le moment le plus dangereux de l'histoire de l'humanité, maintenant. Et la différence par rapport à ce que j'ai connu, que c'est les gens qui ont été hyper compétents, très précis, ils n'ont jamais... Vous savez, si quelqu'un voulait raconter des histoires comme l'autre, que le régime change en vous savez, je n'ose pas vous dire son destin, par exemple sous Staline. Vous comprenez? Ça, c'est les choses comme ça. Mais personne ne permettait ça. Ça, c'est les choses comme ça. C'est-à-dire, on vit dans le monde imaginaire, on se raconte des histoires, et ce qui est le plus grave, comme parfois on y croit, c'est ça le drame. Parce que vous comprenez ça. Quand je vous ai parlé de l'âge, de tout ça, c'est les choses comme ça. Et vous savez, je voudrais rajouter encore un élément qui va dans votre sens. N'oubliez pas que les Russes, ils sont très prudents. Vous avez remarqué que les Russes, dans la presse, ils parlent beaucoup. Mais sur le sujet, vous savez, il y a très très peu de déclarations sur ça, parce qu'ils sont très inquiets, c'est à côté. Et puis, ça peut déraper, et puis c'est-à-dire ils ne jouent pas le rôle d'intermédiaire, mais ils ont des rapports avec Netanyahou, Poutine, il a des bons rapports. Il a des excellents rapports aussi avec les gens du Golfe, avec les Émirats notamment, etc. Tout ça, c'est les choses comme ça, c'est-à-dire essayer du moins de ne pas jouer l'escalade. Vous comprenez
de
ça?
De même que la Chine.
De même que la Chine. La Chine, la Russie, vous savez, la Russie, c'était un... Je ne voudrais pas vous perturber ces gens-là, mais quand même, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'était un cadeau pour Poutine, la situation, parce que l'Ukraine est passée de l'autre...
Ouais. Et les flux d'armes et de munitions se détournent de l'Ukraine vers Israël.
Vers Israël, puisqu'il n'y a plus d'armes, ça c'est les choses comme ça, c'est évident. Les Ukrainiens sont hyper inquiets, parce que ici, il faut aussi prendre en compte le côté, vous savez, personnel de choses comme ça. Vous savez, Zelensky, il souffre quand il n'est pas...
Sous le feu des projecteurs.
Sous le feu des projecteurs. C'est sa nature.
Tout repose sur
c'est
les médias pour
c'est sa nature. C'est, ouais. Ça, c'est les choses comme ça. Il souffre physiquement.
Et puis, vous savez, c'est ce qu'il maintient en lévitation, les médias.
Évidemment. Mais la situation, objectivement, la situation est inquiétante. L'autre jour, encore une fois, déclaration. Il a dit c'est suffit, Trump. Il a dit I don't like it. Excusez-moi en anglais.
Je n'aime pas ça.
Non. Ouais. Et surtout, il a dit. Pas un sou. Il a dit pas un sou pour les Ukrainiens. Vous imaginez
c'est Trump qui a,
c'est Trump qui
a dit ça. Pas un sou pour les Ukrainiens.
Pas un sou. Ouais. Il le dit. Et ça, ouais. Ça, c'est les choses comme ça. Les gens ne répercutent pas. Mais je voudrais juste, avant les choses, rajouter le facteur très dangereux, parce que n'oubliez pas qu'ils ont des rapports très approfondis et eux, ils ont les armes nucléaires. C'est les Coréens du Sud. Les Coréens du Nord. Je veux dire.
Alors, nous allons passer un message et reprendre cette passionnante conversation, cher Vladimir.
Entre-temps, vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Chers auditeurs, vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la crise dirigé par Laurent-Arthur Duplessis, qui reçoit aujourd'hui M. Vladimir Fedorovski, ancien haut fonctionnaire et diplomate russe, écrivain et auteur de « Le diable boiteux au Kremlin, le vrai magicien de Moscou », qui est édité aux éditions Ballant et qui paraîtra tout début mai. Le thème de cette émission est « Le monde s'embrase ». On préférerait dire « Le monde s'embrase ».
J'ai failli dire la folie du monde.
Oui.
J'ai failli dire le conte Andersen, le roi est nu. J'ai failli dire Ionesco, le théâtre d'absurde, mais vous avez choisi un bon titre, Le monde s'embrase.
Ben, c'est le titre d'un de mes livres, en fait.
Bravo.
Une question est arrivée, mais je crois que vous avez déjà partiellement répondu. Cet auditeur nous dit d'abord bonjour et merci pour cette émission très intéressante. Et la question est, quand l'armée russe va lancer sa grande offensive pour briser les lignes ukrainiennes puis foncer sur Kiev ? Bien courtoisement.
Vous savez... je salue votre éditeur, il reflète l'opinion publique, l'état de l'opinion publique russe. Parce que vous savez, la situation, je dois vous dire, elle est complexe pour tout le monde. Certes, Poutine, il gagne beaucoup maintenant avec le pétrole qui hausse et il n'y a pas d'autres sources parce que, les choses comme ça, il est quand même tordu parce qu'il a dit, vous savez, les Européens, ils ont dit qu'ils vont sanctionner mon pétrole. Je préfère maintenant d'arrêter ça rapidement parce que les Asiatiques me demandent, tout ça, c'est quand même dangereux. Parce qu'il faut trouver, le problème, c'est la pénurie. Mais l'opinion publique russe reproche beaucoup à Poutine qu'il traîne.
Qu'il traîne en Ukraine.
Il traîne en Ukraine parce que, vous comprenez, le contexte est là. Le contexte international, quand même, lui donne la possibilité. Mais surtout que, vous comprenez, il y a le complexe militaire-industriel russe maintenant qui a beaucoup d'avantages par rapport aux autres. Parce que, vous savez, 5 millions aujourd'hui d'obus. 5 millions d'obus.
Et produit
en Russie par an.
Par an.
Par an. Les Européens, Inch'Allah, tous, 1 million, les Américains, 1 million. Vous comprenez les chiffres. C'est-à-dire, il exige que ça soit fait Vous savez, il y a les tendances comme ça, mais autour de Poutine, il y a la tendance très forte en faveur de
il y a les plus forts.
Les plus radicalisés. Poutine, il joue un rôle, vous savez...
Modérateur.
Modérateur, c'est-à-dire il a choisi la posture de modérateur. Parce que vous savez, il ne faut pas se leurrer, ces tendances-là, ce n'est pas les tendances réelles, ce n'est pas comme chez Trump. C'est les tendances quand on distribue les rôles. Oui. Parce que, vous savez, par exemple, il y a quelqu'un qui était son collaborateur, et puis il était président, Medvedev. Il a le langage enflammé.
C'est une posture.
C'est une posture. Il y a une posture aussi de quelqu'un qui publie beaucoup ces derniers temps. Il est très écouté, surtout dans...
Tolstoï,
c'est un propagandiste. Oui. Dmitriev, il s'appelle. Ah. Dmitriev, celui qui est un négociateur. Et lui, il a une posture, comme vous avez ici. Vous avez bien choisi le mot français, posture, parce qu'il a une posture de collaboration avec les Américains. Mais, vous savez, je regardais ce matin encore une fois la situation là-bas, ils sont en train de prendre la relève, et je pense que votre auditeur a la raison, il y a une offensive qui se prépare.
Ah oui.
Se prépare, notamment, vous savez, il y a les points clés, je ne voudrais pas vous submerger avec les noms russes, vous savez, à Donetsk, Seversk, etc., tout ça c'est important, mais... toutes les déclarations, encore une fois, déclarations publiques, ils sont là. Que la question sur les Américains, comme ils n'ont pas d'armes maintenant à fournir, ils préfèrent que les négociations avancent très vite. Et la question clé de négociation, c'est la question de reconnaissance de Donetsk, de territoire, contre les garanties, certaines garanties, si on peut avoir les garanties maintenant, par le temps qui court, de la part des Américains. Alors, vous comprenez, moi, je reste diplomate et je préfère que, quand même, les négociations aujourd'hui, ils n'existent pas, c'est dans l'impasse.
Entre Américains et Russes.
Avec les Américains et les Russes, ça existe, mais avec les Ukrainiens. Entre les Ukrainiens et les Russes. Mais l'intérêt bien compris dans ce contexte explosif, encore une fois, de tout le monde, que quand même on essaye de trouver une certaine modus vivendi, et c'est pour ça que je vais revenir juste un mot.
Mais il y aura une grande offensive de printemps, en fait.
Je pense que oui. Ah, voilà. Bien sûr, l'offensive de printemps du côté de Donetsk, qu'il y a...
Odessa,
ça se prépare aussi, il y a une ville maintenant, Liman, il faut regarder, et après Odessa, tout ça c'est lié, mais il faut comprendre que non seulement sur le plan, disons, lucratif, il gagne, mais sur le plan... Vous comprenez le fait que tous les projecteurs sont braqués sur le projet.
Et que les flux de munitions n'arrivent
plus
en
Ukraine. Et les flux de munitions sont là, alors vous comprenez. Mais le problème, plus généralement parlant, vous comprenez, je reviens à mon expérience et au fait que comment on a travaillé autrefois pour dénouer la crise. Les crises, tout d'abord, il faut garder les contacts. Et ça, c'est important, garder les contacts. Et deuxième chose, que quand même, il faut comprendre que là où on va, personne ne va gagner. Ni personne. Vous savez, c'est si les gens sont dos au mur, s'ils sont dans l'extrême, s'ils parlent à leur nombril, s'ils pensent en premier lieu à la diplomatie, mais au nombril médiatique, dans ce cas-là, c'est la fin du monde. Et je souhaite tellement qu'on évite la fin du monde. J'ai bien vécu, mais je pense à nos enfants. À nos petits-enfants, c'est quelque chose de trop important dans le contexte actuel. Et ça se joue, il faut comprendre que ça se joue maintenant.
Ouais.
Maintenant, parce qu'on ne sait pas, il y avait, vous savez, dans ces affaires, il y a les pièges aussi psychologiques. J'ai parlé des pièges des services secrets. Il y a le piège psychologique qui a beaucoup influencé, à mon sens, Trump. Il a réussi un coup très banal en Venezuela.
Et ça l'a dopé.
Il a dit qu'il a une baraka, que ça va réussir. Mais là-bas, c'est un autre contexte, une autre civilisation. Il faut comprendre que là-bas, ils ont acheté le chauffeur de Maduro, vous comprenez tout ça, c'était banal.
Le Venezuela, c'est un nouveau-né par rapport à l'Iran.
Évidemment, d'une part ça.
Il est au berceau encore.
D'une part ça, et répétition de ça, et puis, vous savez, là-bas, les enjeux ne sont pas les mêmes. Vous savez, finalement, je vais vous dire, quand j'ai lu autrefois, vous savez, quand ils ont publié, ça fait 2 mois qu'ils ont publié la nouvelle doctrine stratégique aux États-Unis. Quand ils ont publié là-dedans, ils ont dit le retour de doctrine Monroe, c'est-à-dire la domination américaine
sur le Nouveau Monde.
Sur le Nouveau Monde.
Voilà.
Et je dois vous dire, j'ai regardé, parce que je connais les diplomates de mon époque, chevronnés, les plus chevronnés, ça ne les a pas choqués outre mesure. Ça, paradoxalement, les choses sont acceptées. L'affaire de l'Iran, avec les répercussions économiques, les répercussions... imprévisibilité, ce côté nucléaire dont on a parlé, vous comprenez les choses comme ça. Il faut comprendre que ces pays-là, c'est les petits pays à côté. Ils disent, on va... Vous savez, ils sont d'hier. Il vient sur les îles, au droit d'Hormuz. À l'instant, on attaque les usines de dessalement.
Voilà.
Dessalement.
Mais
c'est une bombe atomique sans condamnation.
Ouais.
Vous savez, Israël, l'Arabie saoudite, s'il vous plaît, je ne parle pas de ces petits pays.
Oui, parce que même Israël dépend des usines de dessalement.
Évidemment,
aussi, hein.
évidemment. Tout ça, c'est les choses comme ça. Ça, c'est une chose, ce qu'on vit. J'ai jamais pensé qu'on va vivre quelque chose de pareil dans le contexte où les contacts sont perdus, que tous les accords, vous savez, il ne faut pas oublier, on parle de nucléaire. Moi, j'ai physiquement travaillé sur beaucoup d'accords sur le nucléaire.
Ils sont tous détricotés.
Pas un qui existe aujourd'hui.
Oui,
vous comprenez
ouais.
C'est les choses comme ça. Mais vous savez, quand on dit, même sur la structure, vous comprenez, quand Trump, il dit, mais j'ai les effets roulés. On a fait négociation. Vous savez, quand la guerre, la situation, le conflit actuel a commencé, quand ils ont attaqué, ils se sont vus à Genève. Et quand vous regardez la liste qu'ils ont publiée avant-hier, ces 15 points, vous savez, sur ces 15 points, il y avait 13 points qu'ils ont concertés pendant la négociation avec les Iraniens en février, à Genève. Vous comprenez? Et après, il a dit, mais c'est juste pour l'Afrique, c'est juste pour faire rouler, pour les calmer, et après on tue Khamenei, on tue toute la direction, etc. C'est comme ça. Mais vous savez, la diplomatie, c'est une longue histoire. C'est une histoire millénaire. On a des règles. Je me souviens, au pire moment de la guerre froide, on a fait des coups tordus, tout ce qu'on veut, etc. On n'a jamais touché aux dirigeants.
Ouais.
Et quand on négociait, on se calmait.
Et en plus, en tuant tous ces dirigeants, il n'y a plus personne à qui parler, parce que ce n'est pas un petit chef local
absolument
sans influence à l'échelle nationale qui peut drainer autour de lui
l'attention. Attendez, vous savez, Khamenei, il a fait fatwa. On parle, il a fait fatwa pour interdire les armes nucléaires. Gens qui sont aujourd'hui en Iran, ils n'ont plus de fatwa, ils ont oublié. Ça, c'est une chose. Il y avait un personnage qui a été tué il y a une dizaine de jours, Larry Jani, il s'appelait secrétaire d'État. C'est le plus modéré, c'est le grand négociateur en sourdine.
Et qui avait suffisamment de poids pour fédérer autour de lui.
Évidemment, vous comprenez les choses comme ça. C'est-à-dire, les choses comme ça, moi je dis, sur le plan pratique, il faut faire... Vraiment, on ne peut pas faire n'importe quoi dans ce moment-là. C'est pour ça qu'il faut analyser ça d'une manière très, très précise, très pointue. On était beaucoup de fois au bord du gouffre, dans mon expérience. Pourquoi on s'éloignait? Parce qu'on était très lucide et très pointu. On conseille d'un vieux routier de la diplomatie d'être très pointu et regarder le monde en face, pas la télévision.
Et alors, il y a d'autres messages.
Oui, plusieurs messages sont arrivés, très nombreux.
Très nombreux.
On n'aura
messages.
Peut-être pas le temps de tous les lire.
Il faut les lire.
Ils sont bienvenus.
Un auditeur, ne pensez-vous pas que les sionistes messianiques et les Américains qui sont dos au mur ne préparent pas un nouvel Pearl Harbor, un nouveau Pearl Harbor? On envoie les marines sur l'île iranienne se faire massacrer pour créer un choc mondial et faire usage de l'arme nucléaire.
Vous savez, c'est un scénario apocalyptique dont parlait votre ami Delcy. Vous comprenez, mais... Je voudrais vous
alors,
dire...
Alors, ce n'est pas une amie, hein, mais je ne la connais pas.
Je vous taquine. Comme elle est dans les services, je crois, c'est ça.
Oui, manifestement, elle est très liée aux M6. Ouais, ouais.
Mais enfin, ça, c'est... les choses comme ça, les gens de service, ils sont parfois très utiles. Il ne faut pas... Et je dois vous dire que le problème là-dedans, c'est que... Là où je suis formel et tout à fait formel, s'il y a l'utilisation des armes nucléaires, c'est la fin du monde.
C'est ça.
C'est la fin du monde parce que vous comprenez, on dit, bien sûr, les Russes, les Américains, peut-être, mais le problème là-dedans, c'est qu'il y a ce facteur coréen qui est bien là, etc. Il y aura, moi, je pense qu'il y aura l'engrenage et ce qu'il faut éviter.
C'est un risque.
Ils se parlent à ce sujet-là, à ces sujets-là, oui. Les Russes et les Américains, parce que c'est dans la tête, etc., de tout le monde. D'où vient la nécessité de pousser vers les choses? Mais il n'y a pas de base.
Le bouffe, c'est Netanyahou, en fait.
Bien sûr, le truc. Mais vous savez, je vous dis, il faut comprendre que le fait que le nucléaire va au-devant de la scène, c'est-à-dire c'est un scénario qui est dans la tête des gens. Et ça, c'est une chose, c'est la dernière chose à faire. Là-dedans, parce que vous comprenez, moi je suis absolument certain qu'il n'y aura plus de Proche-Orient dans ce cas-là, carrément.
Oui.
Ça, c'est les choses comme ça. Mais je ne parle pas de répercussions sur le plan économique, etc., pour nous tous, partout. etc.
Et les proliférations.
C'est un scénario apocalyptique. Il faut garder ça dans la tête. Vous savez, je suis moins... il y a ce côté illuminé qui est beaucoup discuté maintenant par-ci et par-là. Moi, je crois beaucoup qu'au-delà de ça, il y a beaucoup de choses pragmatiques. Quand même chez les Israéliens, il y a non seulement le côté, disons, ésotérique, épique, etc., le grandisme, mais il y a les choses pragmatiques. Oui. Vous savez, quand on analyse ça, je reviens, vous vous souvenez, est-ce que vous vous souvenez, général Clark, à mon époque,
oui.
etc., qui a failli se présenter d'ailleurs, il a publié, c'était circulé confidentiellement autrefois, il a publié ça plus tard dans son livre, c'est-à-dire Transformation de Proche-Orient. Et moi, j'étais toujours sceptique envers ça. C'est-à-dire, mais ils ont appliqué ça. C'est-à-dire, ils changent l'Irak, ils tuent Saddam Hussein. Mais le problème, que le résultat, il n'y a... Quel est le résultat? Il y a un million de morts.
On tue Kadhafi,
voilà. La diplomatie de Bachel, ça donne...
On dit
que la démocratie arrive en Libye, il n'y a plus de Libye.
Voilà.
Somalie, Érythrée, tout ça, c'est les choses comme ça. Liban, ils ont cité tout ça.
Mais...
Vous comprenez? C'est-à-dire les choses comme ça. Et il a dit que derrière ça, il y a la nécessité de contrôler le pétrole, mais le problème, c'est que ça ne marche pas. Et ça ne marche pas et ça ne peut pas marcher. Mais dans cette liste, il y avait l'Iran. Mais vous comprenez, jusqu'à l'heure actuelle, la preuve que vous comprenez, ils ont pensé que la Russie va s'écrouler, ils ont pensé 37 Russies, 2 semaines, etc. Quelles 2 semaines, 5, il y a maintenant, on parle de la France, etc. Et la même chose à propos de l'Iran. Il y a le fait que, malgré leur soutien, disons, médiatique, les Chinois et les Russes restent très prudents, ils sont conscients du danger de ça. Le fait que les contacts sont quand même là, j'espère bien qu'on ne va pas aller vers la situation apocalyptique, quoique, je vous dis encore une fois, tout se décide à l'heure que je vous parle. Ah, parce oui, qu'après oui, la fermeture de la bourse, Trump, il va annoncer ça, mais vous savez, il faut espérer que ces contacts médiatiques... Vous savez, maintenant, ce qui est intéressant, qu'il n'y a pas de contact physique, mais en revanche, diplomatie devient médiatique. Maintenant, non seulement il y a l'intermédiaire de Pakistan, mais aussi on négocie à travers la télévision.
Oui, c'est la négation de la diplomatie.
C'est ça. La négation de la diplomatie, parce que vous savez, la diplomatie dans cette affaire était presque tuée. Et en conseil d'amis, il faut revenir à la diplomatie pour éviter le pire.
Mais oui.
Alors, d'autres
messages.
Encore
un autre message d'un auditeur qui souhaite rester anonyme. Toujours autant de finesse et d'argumentation chez M. Fedorovski. Que faut-il penser de l'objectif de guerre contre l'Iran au regard de la situation au Liban et du financement du Hezbollah et du Hamas par l'Iran? N'était-il pas temps de défaire l'islamisme chiite ou autre? Personnellement, je le pense.
Vous savez, le problème là-dedans, c'est, l'islamisme, c'est une autre discussion. Maintenant, c'est une discussion, vous comprenez, que par quels moyens il faut faire ça. Mon expérience dans ce monde-là, qu'il faut travailler avec les modérés, s'il existe, avantager les modérés et essayer d'éviter avantager les extrémistes. Je vous ai pris l'exemple de Larijani. Larijani, c'était le chef iranien qui était la tête pensante de là-bas. C'était l'homme fort de l'Iran, encore il y a, disons, 3 semaines.
Et là-dessus, Trump avait compris ça, il voulait négocier avec lui.
Mais attendez, on l'a tué.
Et c'est
on l'a tué. Vous savez,
tué.
Mon expérience, mon conseil, avantager, marginaliser les extrêmes, et en revanche, travailler avec les modérés. C'est comme ça, parce qu'autrement, il n'y a pas de choix.
Mais
il y a une autre formule, encore oui, une fois, je n'ai pas de formule magique, je vous parle de mon expérience. J'aurais pu vous raconter l'histoire très ancienne, tsariste, comme ça. Autrefois, ils ont fait l'expérience complètement dingue, la veille de la révolution. Ils ont placé à la place, comme chef d'une partie, le plus terroriste, là-bas, agent de l'Okhrana. Comme ça, ils ont éliminé tous les modérés et ils ont avantagé les extrémistes. Et comme ça, la révolution est arrivée. Vous comprenez? Ça, c'est-à-dire, c'est une chose que je considère contre-productive. L'approche est contre-productive.
Oui, mais Netanyahu tue tous les
Il y a une formule qui est... Non, mais attendez. Vous savez ce que j'ai lu aujourd'hui, en arrivant? Bennett. Vous connaissez l'ancien Premier ministre?
Oui, ancien Premier ministre et
attendez,
Nathalie Bennett.
Il a fait une sortie ce matin, droit critique, directement critique de Netanyahou. Oui. Il a dit c'est complètement dingue, ça ne va pas arriver. C'est très intéressant, c'est-à-dire dans la société, Bennett, ce n'est pas un enfant de cœur.
Oui.
Et ça, c'est tout à fait significatif. Et ça, c'est une chose qu'il faudra prendre raison. La formule qu'a utilisée le secrétaire d'État, maintenant on dit à la guerre américain, que je négocie avec la bombe, les bombes, ce n'est pas la mienne, pour vous dire la vérité.
Ah oui. Alors, d'autres messages.
Oui, d'autres questions. Une petite question. Trump n'agit-il pas en Iran parce qu'il a peur que des révélations se diffusent en rapport à l'affaire Epstein, agent du Mossad?
Vous savez, on parle beaucoup de ça. Je ne pense pas que c'est ça qui détermine la pensée de Trump. Parce que, vous savez, j'ai relu encore une fois son livre, L'art de deal. Vous savez, finalement, il raconte ça. Il dit qu'il faut bluffer, il ne faut pas se gêner pour inventer les choses, il faut annoncer les choses et puis il faut reculer. Je pense qu'il a appliqué ces recettes, mais simplement le problème là-dedans, c'est que appliquer les recettes qui ont marché dans l'immobilier, le conflit international, c'est pas
c'est plus compliqué,
c'est plus compliqué. les choses dans la réalité. Je pense que psychologiquement, il était piégé par les informations très pointues. Parce que vous savez, il ne faut pas sous-estimer que Mossad aussi a beaucoup infiltré l'Iran. Parce qu'ils ont l'habitude de vivre là-bas, ils ont beaucoup d'agents, même si les Iraniens, etc. Et ils ont cru qu'ils vont réussir à changer le régime.
Et ça, c'était... Parce que c'est une chose d'avoir des informations plus, et c'est plus une autre chose de les analyser.
De les analyser. Ça, c'est une chose qui était là-bas, mais la situation actuelle, le fait qu'on commence à comprendre le danger, et même le fait que depuis deux jours, Trump, il a fait quand même une marche arrière. Soyons très clairs. Vous comprenez, il dit qu'il a déjà gagné, mais quand même, par rapport à l'ultimatum...
On sent qu'il est très embêté.
Très embêté. Bien sûr. Bien sûr, surtout que les sondages sont tuants pour lui. Parce que vous savez, détrompez-vous, maintenant, tous les sondages sont formels, il perd les midterms et les élections de mi-mandat. Et je dois vous dire que si vous avez raison, absolument, parce que derrière ça, quand il le perd,
c'est la destitution.
C'est l'attaque frontale de la part des démocrates.
On n'a pas encore vu revenir les soldats morts dans des...
Évidemment, parce que vous savez, l'article 2, quand ils ont parlé, vous savez, ils ont comparé ça. Encore une fois, c'est un éditorialiste plutôt pro-américain. Vous savez, il a comparé la perspective, il a dit, c'est bien fou. Il fallait le dire. C'est les choses, les heures qui nous attendent, c'est les heures effrayantes. Et surtout, pour notre bourse, je voudrais éviter tellement le pétrole à 300$.
Okay. Et peut-être une crise obligataire.
Ça a déjà commencé.
Je voudrais vous livrer un message de Jean Denis qui est arrivé et qui est une petite analyse qui est assez intéressante. Bonjour. Depuis la dislocation de l'URSS, les États-Unis ont voulu croire à leur toute-puissance et à leur domination absolue sur l'Eurasie, colonisée de Rabat à Shanghai. Est-ce un mépris des peuples qui les conduit à croire que les Chinois n'étaient bons qu'à copier, la Russie à fournir de l'essence? Ils n'ont pas compris qu'ils étaient en pleine décadence et que la technologie se diffusait sur l'ensemble du monde, mettant en échec leur domination technique. Le réveil se fait avec un homme fragilisé par ses affaires financières douteuses et sous l'influence d'un entourage de fanatiques politico-religieux. Facteur aggravant, le rôle central du dollar est la vraie question.
Il a absolument raison, soyons très clairs, parce que vous comprenez, on revient à la période, au fait, c'est d'où vient mon hantise de revenir même avec ce livre « Le diable boiteux au Kremlin », je reviens à la source de nos erreurs, tous. Parce que quand on a proposé un monde équilibré sans guerre, en prenant compte les intérêts des uns et des autres pour trouver l'équilibre des intérêts par négociation.
C'est l'esprit du traité de Vienne de 1815.
Évidemment, mais c'est l'esprit même de la Charte de Paris, mon cher, de 1990.
Oui.
Que j'ai modestement contribué à écrire.
Mais oui.
Vous comprenez.
Et c'était James Baker.
James Baker, que j'ai bien connu, qui était tout le contraire. Il a dit, il fallait trouver l'équilibre. On n'a pas... Et après, il y avait les gens...
Clinton,
cet amateur des amours particuliers qui était dans son monde, qui a dit on va écraser, que la Russie est nulle, que la Russie va plonger, qu'il y aura 37 Russies, qu'ils ont fait ça en Yougoslavie. Vous savez, je vous ai parlé une fois à Kissinger. Je regarde, je dis il faut qu'il relise Tolstoï. Il m'a dit non, il faut qu'ils lisent. Ce sont des gens qui sont tombés de la lune et il y avait des erreurs. Et vous comprenez, il y avait des erreurs. La Russie à l'époque, c'est une bêtise monumentale. Parce que vous savez, ce qu'ils ont réussi à faire à une petite échelle, je suis désolé de vous dire la vérité, en Venezuela, ils ont failli faire en Russie. Ils ont acheté ces gens-là. Vous savez, tous ces oligarques qui sortaient 120 milliards de dollars parents pour les placer ici, oui, pour qu'ils aient des villas à la Côte d'Azur.
Mais, oui,
le problème, c'est que la population russe, à l'époque, les a suivis. Parce que la population russe, à un moment de notre époque, 90% était pro-occidentale. Et après, ils ont dit, mais ils voulaient, ne voulaient pas tuer le communisme. Ils voulaient tuer la Russie, etc. Et après, il y avait les étapes. Et il y avait cette conversation, je parle de ça dans ce livre, il y avait un rendez-vous de l'OTAN à l'époque. C'était à Bucarest, c'est 1998. Et Poutine l'a dit, attendez, mais vous nous avez promis de ne pas bouger l'OTAN, Gorbatchev, vous avez promis de ne pas bouger l'OTAN du côté de frontières, vous foutez de notre gueule, ça suffit. Il parle en russe en tête-à-tête avec Merkel. Il a dit, nous, on n'a pas voulu, mais les Américains veulent, c'est très difficile pour nous, bref. Et Poutine, à l'époque, encore une fois, c'est une phrase, alors il l'a dit, alors c'est la guerre.
Alors c'est la guerre.
Alors c'est la guerre. C'est-à-dire, il faut comprendre que maintenant, on arrive à la situation que ces guerres, ils sont considérées, d'où vient le danger d'aujourd'hui, comme les guerres fatidiques,
ouais,
qui jouent le destin des pays. Et c'est vrai qu'ils jouent le destin. L'Iran, il joue le destin de pays. L'Israël, il joue le destin de son pays. Je dois dire, la Russie, l'Ukraine, ouais, tout ça, c'est... L'Europe joue le destin de son existence. Parce que la crise qui peut nous attendre, vous savez, c'est 29. Il y a quelqu'un qui est un grand économiste, Jeffrey Sachs, il s'appelle, de mon époque, qui était l'auteur. Il a dit, 29 va nous paraître des peanuts.
Oui.
Ah oui.
Des peanuts.
Ça, effectivement.
Parce que vous savez, on ne peut pas... vous savez, si... Vous savez, rien qu'aujourd'hui, ils vont vers les îles là-bas, dans le droit de Hormuz. Automatiquement, ils tapent sur les usines de dessalement. L'Israël s'arrête. Les Émirats arabes unis, ce n'est pas l'apocalyptique. Et d'où vient après, qu'est-ce qu'il faut faire? Et après, qu'est-ce qu'il faut?
C'est-à-dire que c'est l'escalade.
C'est l'escalade, et au bout de l'escalade, et ça je pèse mes mots, au bout de l'escalade, c'est l'apocalypse.
Ouais.
Alors, un conseil, réfléchissons, c'est quand même, c'est pas la télévision. Ce n'est pas les comptes Anderson, c'est le destin de notre destin.
On a l'impression que Trump, on est quand même conscient de ça, qu'il est, il temporise, il ne sait absolument pas quoi faire. Absolument.
Vous savez, il y a un petit facteur diplomatique, nuance diplomatique, je tiens à vous signaler, qui me donne un peu de... Quand même, je cherche aussi comme vous, je cherche l'espoir. Vous savez, il y avait... ces négociations ont été menées pas par les professionnels. C'était le gendre de ça.
Et Kouchner, Witkoff,
j'ai plutôt de la sympathie pour lui, mais c'est quand même pas les diplomates.
Ouais.
Vous savez ce que Trump m'a dit hier quand il y avait réflexion, il a dit, calmons-nous, il faut maintenant que ce soit très professionnel. Et il y a quelqu'un qui était très réticent à faire ça, parce que lui, il joue son destin présidentiable, c'est vice-président américain.
Qu'on n'entend pas beaucoup. Non,
absolument.
Hein.
Et vous savez...
Et qui tire une drôle de tête, lui.
Qui a une drôle de tête, c'est une chose. Et à la fois, Rubio, secrétaire d'État, et lui, ils peuvent être à la première ligne si on réussit à transformer, on dit malade imaginaire, négociation imaginaire
en
vraie négociation. Ce que, pour ma part, je souhaite. Parce que je vous dis, si ça continue comme ça, l'enlisement, encore une fois, j'ai réuni les avis sur la perspective dans l'enlisement de tous les militaires, du monde entier.
Ils sont d'accord.
Les Ukrainiens, ils sont d'accord. Et les Français qui disent même à la mainstream, faites attention.
Oui, oui.
C'est-à-dire, les gens disent, faites attention.
Oui, oui.
Les choses comme ça, alors...
Même sur LCI, vous...
Même sur LCI. Vous savez, il y a le général Richoux, il a une sortie. Vous imaginez bien, je les aime bien. Vous savez, je vais vous dire ce qui nous réconforte. Vous ne savez pas, mais je reçois beaucoup, après nos émissions, je reçois beaucoup de messages des généraux. Continuez.
Ah oui,
ah oui, ils nous écoutent, ils nous écoutent.
Ah, très bien, très
absolument.
Bien.
Vous voyez, je compte. Vous savez, j'ai remarqué une chose sur laquelle je compte maintenant. Vous savez, tous ces philosophes, tous ces journalistes, médiatiques, ils sont les plus va-t-en-guerre. Et les militaires, ils sont plus diplomates.
Oui,
ils exigent plus de diplomatie. Il faut les écouter.
Parce c'est vraiment un front renversé.
Un
maintenant.
Front renversé parce qu'ils sont plus pointus. Ils savent qu'il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de ça. Ils savent que l'alternative à ça, c'est les choses.
Alors, d'autres messages encore. 21, nous reste 5 minutes 30 là.
Oui. Deux messages sont arrivés, toujours de la même personne. Qui peut croire encore à la possibilité de négocier avec les Américains alors que les attaques contre le Venezuela et l'Iran ont commencé en pleine négociation? Et comment peut-on croire à la surprise d'Israël alors que le général en chef du renseignement des gardiens de la Révolution a été arrêté après avoir échappé pour la troisième fois au bombardement ciblé des Israéliens sur des réunions de responsables de haut niveau du Hezbollah, puis lors de l'élimination de Khamenei?
Vous savez, votre auditeur, il a raison que la notion même de négociation était discréditée dans cette affaire. Parce que vous comprenez, on disait la veille, en février, en Genève, on disait qu'on avance et après, le lendemain, on tue Khamenei. C'est tout le contraire des choses comme ça. Mais vous savez, je suis très pragmatique sur les choses comme ça. Pour moi, l'alternative au contact, au bout des choses, c'est l'escalade.
Oui.
Et au bout de l'escalade, je vous ai dit, je pèse mes mots, malheureusement, pour nous, ce n'est pas seulement la crise, c'est simplement l'apocalypse. Vous comprenez ? Quand on parle de nucléaire, on banalise nucléaire. Vous comprenez? Il faut comprendre. Alors, vous comprenez, j'essaie, comme je vous parle à haute voix, je parle quand je ne dors pas la nuit avec moi-même. Je comprends bien et je comprends la situation. Vous imaginez bien qu'il y a le raisonnement que vous avez cité, c'est le raisonnement de la majorité des Russes. Ils disent « Arrêtez les négociations, ils vont nous faire rouler ». Il faut maintenant que juste la force de choses sur ce plan-là, je vais vous rappeler pourquoi il faut se raccrocher. Quand vous savez, j'ai fait beaucoup de choses, l'enquête sur Poutine, j'ai fait des livres sur lui, etc. Et,
qui est quand même un des grands hommes d'État de notre
dire,
temps.
Je vais vous dire, j'ai vu quand je faisais à Saint-Pétersbourg, l'enquête, j'ai vu deux personnages qui m'ont marqué pour déchiffrer les choses comme ça. L'un est le chef des mafieux, puisque les chefs de mafieux de Saint-Pétersbourg, puisque Poutine, au début, il était garçon de la rue, il était formé par ça. Il a dit, faites attention, Poutine, il va jusqu'au bout, il ne recule jamais. C'est-à-dire, quand la bataille est inévitable, il va aller jusqu'au bout. La première chose. Et deuxième chose qui va nous réconforter par rapport à ça. Vous savez, j'ai vu son entraîneur
de judo.
Poutine, c'est un judoka.
Oui, très bon judoka.
De haut niveau.
De haut niveau. Ceinture noire, etc. Et il m'a dit, vous voulez comprendre ce personnage, il faut se référer sur judo. Parce que c'est quelqu'un qui, tout d'abord, il n'agit pas sur le show. Vous comprenez?
Il étudie l'adversaire
et après il bouscule l'adversaire avec sa propre force. C'est-à-dire cet esprit de retenue. Et mon souhait, franchement, mon expérience surtout de la crise d'autrefois, dans ce moment fatidique qu'on vit. Je vous dis, on vit le moment le plus dangereux de l'histoire de l'humanité. Il faut beaucoup de retenue sur ça. Et peut-être les arts martiaux peuvent nous sauver.
C'est judoka et un joueur d'échecs. Alors c'est
joueur d'échecs, oui.
Il nous reste
une petite question. Pourquoi les Français ne manifestent-ils pas pour la paix? Car demain, samedi 28 mars, il y a une manifestation à 14h au Palais Royal à Paris pour la paix. Voilà.
Oui. Donc, eh bien, écoutez, cher Vladimir Fedorovski, nous arrivons à la fin de cette émission. En tout cas, je vous recommande, chers auditeurs, prochain livre de Vladimir Fedorovski, Le diable boiteux au Kremlin, le vrai magicien de Moscou, aux éditions Balland, apparaître à la mi-mai, et qui décrit justement...
Au début, mais le diable boiteux explosif et qui donne les éléments sur l'analyse d'aujourd'hui.
Exactement. Vous nous avez donné le goût déjà de lire ce passionnant livre qui montre les dessous de la diplomatie mondiale dont vous avez été un des maîtres, du temps de Gorbatchev notamment. Et chers auditeurs de Radio Courtoisie,
merci à Claudia, merci à Martine
qui nous ont assisté pour recueillir vos messages et puis régler le son. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de mois et à bientôt.
Nous n'avons pas eu le temps de lire tous les messages qui arrivent encore nombreux. Nous sommes désolés, chers auditeurs.
Oui. Mais nous pourrions faire 6 heures avec Vladimir Fedorovski.
Je vais revenir avec plaisir.
Et nous l'accueillerons avec autant de plaisir. À bientôt, chers auditeurs.
Vous venez d'entendre le libre journal de la crise, dirigé par Laurent Arthur Duplessis, assisté d'Éric, diffusé en direct sur Radio Courtoisie vendredi 27 mars 2026, de midi à 13h30 et réalisé par Claudia. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.